Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 de Serial Causeur, l'émission 100% web et 100% série. Et c'est Elodie qui va nous présenter notre équipe aujourd'hui.
Bonjour Tom, bonjour à tous. Et oui, donc deux nouveaux chroniqueurs pour ce premier épisode. Donc nous avons tout d'abord Alix, qui est rédactrice pour le Daily Mars. Donc bonjour Alix.
Bonjour.
Et ensuite nous avons Yann, qui est blogueur série. Bonjour, bonjour. Yann. Et notre invité pour ce premier épisode est à nouveau Alexandre, qui est également notre parrain. Donc bonjour Alexandre.
Eh oui, le Morbac est de retour. Salut.
Qu'on retrouve sur season1.fr. Et pour ce premier épisode, nous allons parler d'une année série de l'année 2004. Que s'est-il passé l'année 2004?
Et c'est Alix qui va nous faire l'honneur de nous briefer cette rubrique.
Aux États-Unis, 2004 est une année forte en réapparition. Pendant que les 4400 reviennent au bord d'un lac, les disparus de Lost, eux, échappent à la noyade. C'est le retour de David Milch avec Deadwood et de Brian Fuller avec Wonder Falls. La fonction recyclage est déjà d'actualité et propose des séries plus ou moins périssables. Le remake de Battlestar Galactica devient la référence, laissant l'original dans l'oubli, quand le Kingdom Hospital de Stephen King tente de détrôner celui de Lars von Trier. Nos Friends nous abandonnent en nous laissant la garde de Joey. Le nouveau Sherlock Holmes porte la blouse blanche dans House, le soap se réinvente dans le quartier résidentiel de Desperate Housewives. Après Queer as Folk, ce sont les femmes qui font leur coming out en 2004 dans The L World. Les hommes, eux, nous emmènent dans Entourage à la conquête d'Hollywood. Angel se termine, mais on rencontre une héroïne pas si éloignée du Buffyverse, Veronica Mars. Et en France, c'est le début de Plus belle la vie.
Alors, gros programme en cette année. Alexandre, je tourne vers toi. Qu'est-ce que tu retiens de 2004?
Alors d'abord, je retiens qu'elle a bien insisté sur Plus belle la vie, alors qu'il y aurait beaucoup d'autres titres sur lesquels il aurait pu insister. Moi qui parle un peu de la fiction française, je retiens effectivement cette aventure-là, au-delà de la qualité de la série. C'est un vrai projet qu'avait lancé France 3, lancer un feuilleton quotidien. Il y en a dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays du monde. Chez nous, il n'y en avait jamais. Ça a été un peu compliqué. Hein. Ils ont commencé, on rappelle, ils faisaient 1,5 million de téléspectateurs tous les soirs. Ils sont aujourd'hui à plus de 5 millions. Donc il a fallu s'accrocher, il a fallu tenir. Je trouve que c'est un vrai pari. Ça fait 10 ans que la série existe, plus de 2500 épisodes. Et il n'y a pas eu d'autres cas. Toutes les chaînes de télé en face ont essayé d'en lancer d'autres. Ils se sont tous plantés. Il y a eu plein de projets. Et Plus belle la vie a tenu le coup. Alors je pense que Plus belle la vie est plus un accident que les autres qui ont raté. Parce que je pense que c'est aujourd'hui dans le paysage dans lequel on est, le paysage audiovisuel, c'est compliqué de lancer un feuilleton quotidien et lui laisser le temps de s'installer.
Et alors, pour toi, quelles seraient les raisons que Plus belle la vie marche en France?
D'abord, les gens, ils aiment bien la fidélité par rapport à un programme qu'ils suivent. Aux États-Unis, les soaps, ça marche depuis 50 ans, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Je crois qu'il y a des personnages que le public, il aime. Et je crois que surtout, à partir du moment où les auteurs ont décidé d'assumer le fait qu'ils aient un soap, et à ne plus essayer de se cacher derrière une chronique du réel, ça a fonctionné, quoi. Donc on fait venir du méchant, on fait venir du psychopathe, on fait venir du diable, on fait venir des morts vivants, on fait venir de tout, quoi.
Mais je pense que l'insertion régulière de moments d'actualité a pu aussi aider le public à rester connecté ou à rattraper des gens en cours de vie de la série. Quand il y a eu les lois sur le mariage homosexuel, il y avait déjà quelque chose de prévu, ils pensent vraiment aussi en termes d'actualité et de se tenir à jour des évolutions de la société.
La présidentielle avait été vraiment mise au cœur du débat aussi dans Plus belle la vie, avec des personnages qui votaient pour l'un pour l'autre. Je sais qu'à un moment donné, ils avaient même, en 2007, tourné deux épisodes, selon si c'était Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy qui gagnait.
Hollande ou...
Non, en 2007.
Ah, 2007.
En 2007. Et pour la Coupe du Monde en 2014, ils avaient fait aussi un tournoi de baby-foot dans le bar du Mistral. Enfin voilà, donc ils essayent d'incorporer des petites choses comme ça. Et je pense que c'est surtout parce qu'ils ont assumé de faire un soap et ils ont joué avec les codes de la série. Alors après, on aime, on n'aime pas, c'est pas une question de qualité, mais ils jouent avec les codes de la série, ils assument et ils y vont.
Et puis aussi, le 25 décembre, c'est le 25 décembre dans la série, donc c'est exactement les mêmes jours.
Donc ça nous paraît pour nous. Ça nous paraît génial quand ils font ça, mais enfin, bon, on va quand même redire que les Américains, ils le font depuis 50 ans.
Oui, voilà.
C'est juste que nous, ça nous paraît révolutionnaire.
Nous,
c'est vous dire à quel point on est en retard. On se dise que c'est génial en 2004.
Sinon, quelle série vous a marqué cette année-là, Alexandre, pour toi, la grosse révélation de 2004?
Moi, j'aime les séries à suivre. J'aime les séries, je pense qu'une série elle est faite pour fidéliser le téléspectateur et lui donner rendez-vous et le tenir et le prendre et ne plus le lâcher. Donc à ce jeu-là, Lost remplit pleinement la fonction pour moi du début jusqu'à la fin, parce que je ne fais pas partie de ceux qui ont détesté la fin. Mais la première saison est vraiment réussie, elle marie des flashbacks, l'intrigue, ça fonctionne bien.
Alors en 2004, ABC a mis tout le monde d'accord. tu m'arrêtes si je me trompe,
oui,
en 2004.
Oui, je t'arrête.
Lost et Desperate Housewives ont commencé sur cette chaîne, ça a cartonné avec, je crois, des points jusqu'à 25 millions, si je ne me trompe pas. Est-ce que pour toi, ça a été le pactole ou un coup de chance ou une vision plutôt, une bonne vision de ce qui manquait à la télé? Enfin, qu'est-ce qui a marché?
Bah, je crois que il a marché en 2004, ce qui ne marche pas aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois que 2004, c'est pour moi une année dans laquelle les networks tentent d'appliquer dans leur programme à eux ce qu'ont fait les recettes dans leur domaine à eux des séries du câble, et c'est la réplique. Et elles arrivent finalement à garder leur identité de network et en même temps à avoir ce qui fait le succès du câble avec les séries arrivées à la fin des années 90 comme Les Sopranos. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, les networks qui font du network bourrin, et puis il y a le câble qui fait des trucs un peu prestigieux, et le fossé se creuse. Et en 2004, je trouve que ce qui était bien, c'est que le fossé avait tendance à se réduire un peu. Le câble n'était pas non plus au firmament, et les networks, il y avait de la qualité sur les networks.
Je pense que c'est aussi les castings sur des séries comme Lost et Desperate Housewives, des gros castings, des castings forts, très larges.
Et comme Terry Hatcher.
Il y a eu beaucoup d'acteurs de séries, en fait, dans DH et dans Lost, qu'on connaissait déjà beaucoup, et donc il y a eu quand même beaucoup de téléspectateurs qui sont venus pour les revoir aussi. Et c'est vrai que, les premières saisons pour ces deux séries-là ont vraiment cartonné. Bon, après la suite, on n'en parle pas, mais chacun a eu la vie qu'elle devait avoir. Mais c'est vrai que Lost, avec son mystère, plus ou moins mystérieux, c'est vrai que finalement, on ne savait pas trop où on allait dans Lost. Alors que dans DH, on avait quand même un mystère avec un petit peu de... Enfin, c'était pas si original que ça, ça piquait quand même à beaucoup
c'est
de
du soap, c'est du soap, revu, corrigé. Oui, enfin, est-ce que ça l'a vraiment réinventé? J'en sais rien, je suis pas persuadé que ça l'ait vraiment réinventé. Une intrigue policière, des histoires de couple, des coucheries, on l'a vu dans plein d'autres séries depuis 30 ans. Donc, moi je pense par exemple que The O.C., Newport Beach, a beaucoup plus réinventé le teen show en transformant les codes et en se les réappropriant que Desperate Housewives n'a réinventé le soap. Moi, je trouve que ça n'a pas été une très grande
invention. Ça a mis en avant des personnages féminins forts. Chose qu'on n'avait pas vue, je pense, à la télé depuis un moment.
Ah, depuis un moment, oui. Mais on a souvent dit qu'il y avait un soap dans les années 80 qui était l'ancêtre de Desperate Housewives, qui s'appelait Côte Ouest, qui est la série d'arrivée de Dallas, et dans lequel les personnages principaux sont des femmes.
Oui.
Avec Nicolette Sheridan, justement, qui est aussi dans Desperate Housewives.
Non, mais l'innovation, pour moi, dans Desperate Housewives, c'est vraiment de faire passer le modèle du soap en prime time et dans le format...
Non, Dallas, c'est 1978.
Oui, mais de faire revenir au goût du jour, parce que c'était quelque chose qui était quand même considéré comme un genre... Enfin, pardon, mais qui était un peu méprisé et qui était un peu un truc de ménagère et pour les vieux, quoi. C'était, enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est quelque chose qui a refait surface comme quelque chose de moderne piquant, quoi.
Je me demande, alors je parle pas forcément pour toi en disant ça, mais je me demande s'il n'y a pas une espèce de petit snobisme dans le fait de dire que Desperate Housewives serait plus hype que les autres, parce que c'était la série 20 millions de téléspectateurs. Je suis pas certain, je veux dire, elle va pas beaucoup plus loin que, on a parlé de Dallas, mais que Melrose Place faisait dans les années 90, que, non, les actrices n'étaient quand même pas non plus... des grands prix de comédie française, enfin, je sais pas, moi j'ai pas l'impression que. Par contre, c'est vrai qu'on a voulu se réapproprier l'histoire de Desperate Housewives en laissant croire que c'était la révolution à tout prix, mais moi j'y crois pas.
Hein. Et est-ce que ce ne serait pas du coup l'inspiration, entre guillemets, les retombées de Sex and the City avec un côté un peu les quatre femmes qui partagent leur vie, leurs amours, leurs histoires et tout ça, qui a généré quelque chose de. Voilà, de. Qui semblait...
Non, pour moi, non. Enfin, c'est quand même extrêmement différent. Enfin, quand même, on rappelle, Desperate Housewives, le premier épisode s'ouvre sur une femme qui se suicide, qui se tire une balle dans la tête.
C'est clairement...
Parce que, et attention, spoiler, mais parce qu'elle a fait quand même des choses en volant d'un enfant, etc. On est quand même très très loin. C'est du soap. Enfin, c'est du soap. Mais du soap comme on en fait en prime time depuis 30 ans et comme on en fait l'après-midi aux États-Unis depuis 50.
Alors, est-ce qu'on est plus dans le plaisir coupable pour DH?
Pour moi, si t'aimes pas...
Si
t'as ma vision du soap à moi, c'est-à-dire, voilà, de quelque chose... Oui, mais c'est attaché justement à une vision surannée du soap. Je pense que si t'as aimé Dallas ou Côte Ouest, pour moi, il n'y a pas forcément d'obligation à considérer que c'est un plaisir coupable. C'est un genre sériel tout à fait... comme les autres, et il n'y a pas de... Je pense que voilà, c'est vraiment un point de vue, le fait du plaisir coupable, d'un peu d'esthète qui veut se détacher de quelque chose de très... de beaucoup plus populaire, quoi.
On peut revenir sur Lost. Est-ce que pour toi, t'as accroché tout de suite avec ce pilote? Il coûtait très cher à l'époque.
Mais c'était l'un des plus chers, je crois qu'il a coûté 14 millions d'euros, il me semble. Bah oui, enfin, le pilote est quand même sacrément efficace. Tu aimes les yeux au ciel?
Non, non, pas du tout, je suis toujours d'accord.
Mais il est efficace. Sawyer, je pense.
il est extrêmement efficace quand même, le pilote de Lost. Toutes les bases sont là, on est intrigué par ce qui va arriver. Enfin, les personnages sont... Il y a quand même une sacrée galerie de personnages. En plus, on a des personnages quand même qui parlent parfois dans leur langue avec des sous-titres. On est sur un network, milieu des années 2000. Entendre un personnage... Enfin, tu parlais tout à l'heure du 11 septembre, mais on est quand même en 2004, 3 ans après le 11 septembre. Il y a quand même un personnage qui est un ancien soldat de la garde républicaine irakienne qui parle en arabe dans une série en network sur une chaîne de télévision. Enfin, il y a quand même des trucs dans ces premiers épisodes qui sont un peu coulus, quoi.
Est-ce que ça, comme DH... repris des choses qu'on connaissait déjà? Est-ce que ça a réinventé quelque chose? Est-ce que ça proposait vraiment un concept
beaucoup plus novateur, à mon avis? Même si Le Prisonnier, dans les années 60, avait quand même déjà un peu posé les bases de ce genre de série un peu paranoïaque, mais oui, c'est beaucoup plus innovateur.
Enfin, mon souvenir de 2004, précisément, c'était qu'à l'époque, là où je travaillais, moi, j'ai pas commencé à regarder immédiatement Lost, et en fait, j'avais tout d'un coup... l'intégralité du monde qui tournait autour de moi, qui n'était pas du tout spécialiste de séries ou quoi que ce soit, qui, à la machine à café, ne parlait que de ça, et n'essayait, toutes les semaines, essayait de comprendre les nouveaux mystères qu'on leur posait dans Lost, et où est-ce que ça partait, comment ça s'intégrait. Et c'était très drôle, il y avait vraiment un côté... enfin, ce côté-là d'essayer de comprendre où ça va, et d'essayer de pointer tous les mystères... et comment ils peuvent se rattacher, est venu extrêmement vite pour... Enfin, j'ai eu l'impression que c'est venu très très vite dans la série. Et du coup, après, bon, il y a le fait que ça s'est étendu et que potentiellement certains ont été un peu fatigués justement d'avoir beaucoup beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses.
Les cliffhangers, ouais. La succession...
C'était vraiment une gestion... Il y a une narration dans Lost qui est assez, assez particulière et qui poussait... qui impliquait vraiment le spectateur.
Ouais.
C'est vrai que là, on...
Et puis toutes ces séries de 2004, finalement, leur point commun aussi, c'est d'arriver à un moment où il y a une espèce d'émergence et du net, encore plus qu'avant. Les réseaux sociaux commencent un peu, je crois que Facebook, la création de Facebook, c'est 2005, donc peut-être 2006-2007, donc en plein pendant ces séries-là, ces réseaux sociaux, ils arrivent et les gens peuvent échanger entre eux, et c'est ça aussi qui contribue à créer la communauté.
Je pense aussi, dans Lost, la galerie de personnages, il y en a beaucoup, mais on arrive à s'attacher à pratiquement tous, quoi.
On avait le choix, c'est vrai qu'on avait au moins un personnage qu'on aimait, comme dans Desperate Housewives, je pense. Il y a au moins un personnage qu'on aimait plus.
Il y avait beaucoup plus de personnages que j'aimais dans Lost.
Mais toi, tu aimais tous les beaux gosses de la série, donc après...
Sinon, pour revenir à une autre série, on va dire culte, hein, je pense qu'il a marqué des générations et qui s'est arrêtée en 2004, Friends. Je sais pas si... Alexandre, tu veux nous en dire un mot?
Oui, c'est de la série... C'est de la sitcom extrêmement classique, mais extrêmement efficace, avec un casting, qui fonctionne, qui est rodé. Voilà. La série, elle a mal vieilli les dernières saisons et tout, mais ça reste l'une des premières séries, quand même, en France en tout cas, qui a vraiment fait exploser le truc. Je me souviens d'une série, d'une soirée en prime time sur France 2 chez Jean-Luc Delarue, où il y avait la présentation des épisodes de Friends. Donc c'est une série importante. Après. C'est-à-dire qu'elle a révolutionné le genre.
Est-ce qu'on est de la génération Friends?
Moi, je me considère complètement comme de la génération Friends. Mais pour 2004, moi, ce que j'ai trouvé, c'était que, voilà, ils ont bien géré dans le style de la comédie les au revoir. Il y avait vraiment, voilà, je pense qu'il y avait à la fois, tout le monde était au rendez-vous, il y avait vraiment quelque chose de... Ils ont amené les personnages à une finalité intéressante et ils ont dit au revoir au niveau comique de façon qui, pour moi, me satisfaisait complètement et voilà... Et je pense que le dernier épisode, j'ai dû beaucoup rire et aussi avoir la larme à l'œil pas mal.
Beaucoup pleurer.
Du coup, voilà. Et par contre, sur le fait qu'il nous ait laissé de jouer en héritage, ça, je pense que c'était peut-être... C'est là qu'on voit un peu les limites du spin-off, je pense.
Non, mais on peut... Je suis pas totalement d'accord dans le sens où quand il nous laisse jouer, on sait pas ce que ça va devenir. Donc potentiellement, sur le projet en lui-même...
c'est en 2004 qu'ils ont commencé...
Oui, mais sur le projet en lui-même, de dire on va faire un spin-off, 1, c'était plutôt logique, 10 ans de succès, on a envie de le faire. 2, le personnage de Joey pour un potentiel comique d'une sitcom, c'était potentiellement quand même celui qui avait le plus de matériaux, peut-être avec Chandler, mais c'est tout. Et encore, Chandler, peut-être qu'il existe, peut-être pas dans une dimension hors du couple d'amis qu'il a avec Joey. C'était le seul. Moi, j'aurais pas misé un copec sur une
spin-off sur Phoebe ou sur... n'importe qui d'autre, ça aurait... Mais non, c'est juste que pour moi, ça a été... C'est, voilà, c'est
et moi, Joey m'a fait marre.
Ah ouais, moi, c'est marrant,
toi,
ça m'a pas emballé parce que pour moi, il y avait vraiment le fait qu'il y avait la comparaison avec Friends et que du coup, comme je retrouvais pas du tout l'esprit et que ça me faisait pas du tout autant rire, alors que potentiellement, je suis même pas certaine que si je regardais Joey en essayant vraiment de détacher mon esprit, ça aurait pas été quelque chose qui m'aurait, qui m'aurait sans doute un peu plus plu, mais...
Est-ce qu'on peut parler un peu de Dr. House ? Je le dis bien.
Ouais. C'est beau.
Dr. House, alors est-ce que ça a révolutionné le genre médical et est-ce que ça a enterré Urgence ?
Non, je pense pas personnellement.
Pour moi, House a vraiment rien révolutionné du tout, dans le sens où voilà, c'était ni le premier anti-héros, ni le premier show médical, ni la première version de Sherlock Holmes à la télévision. Enfin,
oui, mais ça regroupait tout,
voilà,
ça.
Mais
tout reposait sur ce personnage, toute la série reposait sur lui en fait. Et ce qui était un peu dommage.
Pour moi, tout l'intérêt de House, c'était vraiment dans la bromance avec Wilson. C'était vraiment le duo. En fait, c'était drôle parce qu'il y avait un peu tout ce côté Will's Day One Day avec Cuddy. Merci. Avec Cuddy. Et en fait, c'est marrant parce que pour moi, c'était vraiment très, très annexe, finalement, cette relation-là. Sachant que voilà, c'était Wilson qui était le vrai lien de House avec l'humanité et avec... une empathie quelconque.
C'est un acteur fantastique, je trouve, Hugh Laurie, et puis il a le naturel pour un rôle qui est à la fois comique et qui doit être sérieux aussi. Je trouve que la série, il avait un intérêt sur ce mélange entre le policier et la série médicale. C'était vraiment un truc à faire, ça. Ce mélange, en fait, c'est là qu'il y a l'intérêt de la série au départ.
Mais pour rebondir sur ta première question, est-ce qu'il a révolutionné quelque chose ? Pour moi, quand même. C'est pas parce qu'on met dans une série des genres qui ont déjà existé partout que ça ne révolutionne pas, c'est ce qu'on en fait qui compte. Et je trouve qu'en faisant une série, en donnant l'impression qu'on fait une série médicale, mais en fait en faisant un cop show, sauf que où les criminels sont des virus et des bactéries, d'un seul coup, le traitement et la façon de gérer la série médicale, si, ça la réinvente. Ça n'enterre pas Urgence parce que le propos n'est pas du tout le même. Mais par contre, je crois que c'est à la même époque qu'est lancé Grey's Anatomy, si je ne me trompe pas. Et la comparaison des deux, du coup, qui arrive en même temps, là, pour le coup, c'est clair qu'on se dit, y a l'originalité qu'il n'y a pas dans Grey's Anatomy, on la retrouve dans Dr. House pour l'innovation. Mais c'est une espèce de truc complètement à part, quoi.
Alors, qu'est-ce qui a attiré les gens, en fait, dans la série ? Est-ce que c'est le mystère ? Est-ce que c'est le personnage ?
C'est House. Pour moi, c'est House. Enfin, je ne peux pas être attiré par le...
Il y a même des personnages secondaires qui étaient assez intéressants.
Ouais, oui, mais parce qu'ils existent autour de House.
Oui.
Bah, la série évolue aussi au bout de 3 saisons. C'est que les 3 premières saisons, c'est vraiment à chaque fois un cas dans chaque épisode. Et puis au fur et à mesure, on a plus de fil rouge dès la 4e saison où ils cherchent à remplacer ses médecins. Voilà, et je trouve que justement, ils ont réussi à se renouveler à la 4e saison pour donner quelque chose de plus intéressant, une autre dimension à la série. Et pas que à chaque fois, comme dans les séries policières, où on a un meurtre qu'il faut résoudre à chaque épisode. En l'occurrence, là, un cas médical.
D'ailleurs, je me demande si Shonda Rhimes ne s'est pas un peu inspiré de la saison 4 de House pour faire son début de How to Get Away.
Oui, moi, ça m'a beaucoup fait penser aussi.
Ouais. À la sélection des candidats, quand même.
Un peu,
Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu disais, en fait, Alexandre, sur le côté, l'intérêt de voir le médecin comme... Urgence avait présenté une vision du médecin très, très réaliste, mais un médecin urgentiste qui du coup, agit immédiatement et, du coup, diagnostique de façon instantanée et ensuite se débrouille avec ce qu'il a diagnostiqué. Là, il y avait vraiment le côté du médecin qui n'est pas Dieu, alors même si House avait clairement un problème de complexe de... Enfin, de God complexe. Là, du coup, il y avait vraiment ce truc de... un médecin ne va pas instantanément, en vous regardant et en entendant une liste de symptômes, savoir ce que vous avez, qui pour moi était intéressante par rapport à l'approche du métier que le public a.
Donc, mais il fait aussi une vraie peau de vache, le personnage, c'est ça qui est intéressant.
Il part du principe que les patients mentent par principe. Donc,
et puis comme
c'était intéressant, donc du coup ça amène une investigation, ça amène...
Puis comme beaucoup de personnages américains qui sont très intelligents, souvent, c'est des personnages comme les personnages de Bones, de House, c'est des personnages qui sont très intelligents, qui du coup sont hors système, sont, voilà, c'est un peu des Sheldon, tous ils sont un peu, ils ont un peu des difficultés sociales, ils ont un peu cette caractéristique de l'intelligence, rend un peu autiste au monde, bon, qui peut être débattu, mais qui...
Enfin, là, quand même, la particularité de House, c'est qu'il carbure à la nicotine, quand même.
Oui, oui.
Ça n'arrête pas à être ouvert sur les autres,
Bon, pour terminer sur ce débat, un petit bilan rapide. Si je vais vous dire 2004, c'est le synonyme de quelle série pour vous, Alexandre?
Lost, parce que je pense que c'est celle qui a en tout cas essayé de faire quelque chose de plus nouveau. Voilà. En termes de positif, ce serait ça.
Yann?
Il y a forcément Lost, parce que c'est la série qui marque. Mais c'est vrai que moi, j'ai apprécié des séries comme Deadwood ou The L-Word, qui étaient vraiment des séries importantes. J'aime beaucoup la musique. The L-Word, il y avait vraiment beaucoup de musique dans la série, en plus de ce que ça a amené sur la condition lesbienne, on va dire.
C'est vrai que la cible féminine est finalement bien lotie avec Desperate, avec Veronica Mars qui est arrivée, et puis L-Word. Oui. Non, c'était vraiment qu'il y avait un girl power qui était revenu, quoi.
Moi, j'ai pas vu Elwood ni Veronica Mars. Ni...
Moi, je les ai vus et voilà, j'ai beaucoup aimé.
C'était vraiment des séries de filles ou pas?
Non, pas du tout. Forcément. Pas du tout.
Ouais, pour moi, non, c'est limitant de les... C'était des séries avec des rôles féminins très importants. C'est pas tout à fait la même chose que des séries de filles.
Pour moi, non. Et toi, donc, Alix, quelle série?
Alors moi, j'avoue, enfin, je vais citer Battlestar Galactica parce que pour moi, c'était voilà, ça reste un. Une des pierres angulaires de ma série Philly, et du coup, voilà, c'est...
Alexandre, me lancer là-dessus à la fin de l'émission, c'est pas chouette, quoi.
Pourquoi t'as des avis très tranchés sur Battlestar?
Ouais, je me suis profondément emmerdé devant Battlestar Galactica, devant le début.
D'accord.
Donc, le pilote qui dure 3 heures, déjà...
Ouais, le pilote était pour moi ce qui était le moins réussi.
Donc,
ouais.
Voilà, et... voilà, moi, je trouve qu'on en fait beaucoup autour de cette série, et que... Mais, peut-être à juste titre, quand on va jusqu'au bout, mais...
Ouais, n'ayant pas moi, pu aller jusqu'au bout. C'est vraiment le côté épopée humaine, voilà, dans un... de survie et de l'humanité qui avait quelque chose... Et puis, voilà, des approches de la société... Enfin, voilà, d'une vision de la société prise au prisme de la science-fiction était vraiment voilà, très bien réussi pour moi. C'est un genre.
Tom, bon, je connais déjà ta réponse, mais tu peux nous dire quelle série a marqué
la Je ne dirais pas Lost, même si je veux le dire, Lost. Mais,
on s'en doutait pas.
Mais Lost et Dr. House ont été les deux séries qui m'ont vraiment intrigué pendant toute leur vie. Donc Lost, 6 ans, et House, si je ne me trompe pas, 8 ans.
Ouais.
Même si la dernière m'a pas du tout... Mais c'est encore des séries qui m'intriguaient jusqu'à la fin de leur vie. Donc Lost et House.
D'accord, bah pour moi, en l'année 2004, hormis Lost qui évidemment était aussi grosse révélation, hein, faut pas se le cacher, envie de voir absolument la suite à chaque épisode. Pour moi, c'est Veronica Mars, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année-là, même si...
Série de filles.
C'est ton point de vue. Après, je pense que c'est pas que une série de filles, et je pense que le... Gros point positif de Veronica Mars, c'est vraiment un personnage féminin qui est atypique et qui, pour moi en tout cas, a marqué la télévision. Voilà.
C'est moche de faire ça. Je peux pas rebondir et tout. Enfin, Veronica Mars qui a marqué la télévision.
Le personnage, bah, je trouve, non. Était vraiment.
Ça marque quoi?
En quoi ça marque? Je comprends pas.
Des personnages forts féminins, il y en a déjà eu tellement avant.
Oui, il y en a eu.
Xena, il y a Buffy, il y a eu Scully.
Oui, bah, il y en a eu d'autres. Après, là, ouais, mais c'était un personnage teen de base qui, je trouve, se différenciait vachement et qui arrivait à toujours avec ses petites répliques, ses petites piques aux gens. Voilà, je trouvais que c'était voilà, un personnage pour moi en tout cas emblématique de l'année 2004.
Mmh. On était déjà grands avec Alexandre,
mmh, c'est ça. Ça nous a pas... Non, mais j'aime beaucoup Veronica Mars, mais je trouve que c'est une série qui a été vraiment au top dans sa première saison. La deuxième, il fallait quand même ne pas rater un épisode pour pouvoir la suivre, donc ça continue à aller. Et la troisième saison est complètement foirée. Donc une série qui marque la télévision quand on peut compter une saison et demie pour dire... voilà, c'est juste là que j'ai mis un doute. Mais il y avait un potentiel fort, mais qui pour moi n'a pas été accompli.
Voilà. Finalement, 2004, c'est des séries avec des premières saisons très fortes, et qui tombent dans l'oubli après.
Dans l'oubli, non, mais... pas. Lost, je pense, aura marqué les esprits et...
Mais je pense qu'on y reviendra très très bientôt.
Exactement.
On remercie tout le monde d'avoir été parmi nous. On remercie Elodie, Yann et Alix. Et on remercie aussi Alexandre d'avoir essuyé à nouveau les plâtres pour cette vraie première émission. Et on remercie aussi le 9e ciel qui nous accueille aussi pour ce numéro.
Et donc, on va vous laisser avec nos chers disparus de l'année 2004 qui vont vous dire le mot de la fin. Et n'hésitez pas donc à nous suivre et à partager l'émission. Et n'oubliez pas le hashtag SerialCauseur. Et donc, je vous dis merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Nous avons Alexandre. Bonjour Alexandre.
Eh oui, tu en as cru, c'était de retour. Bonjour.
Bonjour.
Ah oui, c'est à moi.
Non mais, Joe l'a cru, ce qui m'a fait beaucoup rire.
Mais il y a des musiques alcoolisées ou pas?
Tant qu'on voit pas les verres, ça va. Tu recommences avec Alexandre.
Je recommence.
Je vais en faire jouer un coup.
Vas-y.
Non, regarde.